Deuxième béatitude, heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Dans cette parole, heureux les doux, car ils auront la terre en héritage, on retrouve presque exactement la même chose dans un texte de l'Ancien Testament. C'est le psaume 36. Hein? Ne t'enflamme pas contre le méchant, il n'y a rien de bon. Les doux habiteront, les doux posséderont la terre, dit le psalmiste. Alors, donc c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, l'expression « doux » en grec qui est utilisée, c'est le mot « praïs ». On va le retrouver à deux autres endroits. Quand Jésus va dire « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et l'autre endroit dans l'Évangile de Matthieu, c'est Jésus quand il rentre dans Jérusalem, il est assis sur un ânon. Voici que ton roi vient vers toi, doux, c'est marqué humble dans la traduction, bon, assis sur un ânon, le petit d'une âme. Alors, doux, comment comprendre aujourd'hui cette dimension de la douceur, hein? Le doux, en fin de compte, dans l'Évangile, c'est celui qui ne riposte pas aux violents, celui qui n'agit pas avec violence. Et on sait dans l'Évangile de Saint Matthieu, entre autres, que Jésus nous invite à la non-violence. Gandhi, vous avez entendu parler de Gandhi, qui est mort à la fin des années 60, peut-être, il me semble que c'est fin des années 60, Gandhi qui était un apôtre de la non-violence. Et Gandhi disait que les plus belles pages de littérature qu'il avait rencontrées dans sa vie, c'était le discours sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, dans lequel récit on trouve justement les béatitudes. Et dans le discours sur la montagne, Jésus nous invite à la non-violence. Il invite à la non-violence. Si on regarde dans notre monde aujourd'hui, je trouve que cette béatitude est tellement importante. Dieu sait qu'il y a tellement de violence dans le monde d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Violence dans les foyers, violence conjugale, violence verbale, violence par les armes, la guerre. Il y a des choses atroces qui se vivent actuellement. On a eu dernièrement, puis portons-les dans notre prière, de prier pour l'Irak. En Irak, actuellement, que de violence. Vous avez des chrétiens de la ville de Mossoul, qui est à peu près 35 000 chrétiens, et avec l'arrivée des djihadistes, c'est que si tu ne te convertis pas, on va te tuer. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est des populations complètes, actuellement, qui quittent des endroits où les djihadistes se rendent présents actuellement, et puis ils partent avec rien, mais rien. Il y a une violence terrible, et que s'ils rencontrent quelqu'un qui est chrétien, comme c'est arrivé, on nous racontait qu'il y avait deux jeunes à ce moment-là qui avaient besoin d'eau, et ils avaient traversé un endroit, puis ils sont retournés pour aller chercher de l'eau, mais sur le chemin, ils ont rencontré des djihadistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux deux jeunes? Ils leur ont coupé les bras, les mains, ils leur ont coupé la tête. Alors, et quand on a vu que les jeunes ne revenaient pas, alors on est retourné et là on les a trouvés morts, on les a enterrés et le groupe a continué sa route. Vous voyez, mais que de violence, puis pas de ça d'aller loin. De l'impatience, des fois, dans nos milieux, même dans le public, dans un transport en commun. Alors, des fois, n'ayez pas le malheur de piler sur les pieds de quelqu'un par inadvertance, par manque d'attention, que, des fois, il y a de la violence, la conduite de la voiture. Bon, que d'exemples on pourrait prendre de violence. Alors, Jésus nous invite, heureux les doux, heureux les doux. La douceur envers soi-même d'abord. Aborder la douceur à trois points de vue. Être doux envers soi-même. Une patience à avoir envers soi-même. Parfois, on a de la difficulté, tout simplement, d'où vient qu'on manque de douceur envers soi? c'est parce qu'on a de la difficulté d'accueillir l'homme ou la femme que nous sommes. D'accueillir, à un moment donné, une faiblesse, une limite. Et on devient agressif, et souvent, c'est contre soi, parce qu'on a de la difficulté à accueillir. Et je vois ça des fois, hein, des fois des personnes, à un moment donné, hein, qui doivent prendre une canne, qui doivent prendre un déambulateur, et là, ils sont toujours de mauvaise humeur. Mais pourquoi c'est de mauvaise humeur? Hein? Ils manquent de douceur, en fin de compte, parce qu'ils manquent d'accepter cette difficulté qu'ils ont maintenant de vieillir, qu'ils ont besoin d'une canne, ils ont besoin d'un déambulateur. La violence, hein, on peut manquer de douceur déjà envers soi-même. Déjà envers soi-même. On peut manquer de douceur aussi dans nos relations avec les autres. On peut manquer de douceur. Apprenez, dit Jésus, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés aussi à accueillir l'autre avec ce qu'il est. On veut le changer, on voudrait qu'il soit différent. Mais si on accueille l'autre avec ce qu'il est, eh bien, à ce moment-là, ça va nous aider à avoir une relation qui sera empreinte de douceur et non pas d'agressivité ou de violence. Alors, ça me fait penser, vous savez, des fois je raconte ça, quand je prêche à des personnes plus âgées, quand ça m'arrive des fois dans des couvents, il y a des personnes, des sœurs plus âgées, puis tout ça, je raconte un petit exemple, un petit fait qui est arrivé dans la vie de Paganini. Paganini, c'était un violoniste célèbre. Et on raconte que Paganini, à un moment donné, lors d'un concert, une corde de son violon saute. On approche de la fin du concert, et il lui reste 3 cordes. Hein? Puis là, il continue à jouer, il y a une autre corde qui saute. Et il y arrive à la fin du concert, il y a une autre corde qui saute. Puis on dit que Paganini va finir le concert avec une seule corde. Une seule corde. Qu'en est-il exactement? Je pense bien que le fait de être réel pour qu'on nous le rapporte. Mais dans la vie, vous savez, nos cordes sautent à un moment donné. Hein? C'est vrai que nos cordes sautent. On se lève le matin, hop, on a un peu plus de misère à se lever. Hop, il fait pas beau, hop, on fait un peu d'arthrite, on a plus mal aux jambes. Hop, la mémoire est moins bonne. Il y a des cordes qui sautent dans nos vies. Hein? Puis on est tous comme ça, qu'on le veuille ou non, on finit par, hein, il y a des cordes qui sautent. Mais, est-ce qu'on est capable, comme Paganini, avec les dernières cordes que nous avons, de donner un beau concert, de faire sortir une belle musique? Mais si on pense trop souvent aux cordes qu'on a perdues, qu'est-ce qui arrive? On ne sera jamais capable de finir en beauté notre vie. Hein? Donc, avec les cordes que nous avons, je ne veux pas, moi comme vous, moi j'ai mon œil droit qui commence à être moins bon quand je lis, puis je m'en aperçois. Bon, ben je me dis donc, c'est comme ça. T'sais? Accueillir que nos cordes sautent à un moment donné, et avec les cordes que nous avons, être capable de sortir une belle harmonie, ne pas rendre la vie difficile aux autres. Être doux envers soi-même, avec les limites que nous rencontrons, et de même aussi, hein, pour ceux que nous rencontrons en devant nous. C'est déjà un petit exemple. On se retrouve devant une personne âgée, hein, qui marche plus lentement. Puis là, on est dans le corridor, puis là, on est obligé de suivre. Hein. Puis là, on devient patient. Ah, ben oui, un manque de douceur. Accueillir que l'autre, il va moins vite. Ça m'arrive encore ce matin, en venant ici, à l'île d'Orléans, de ce temps-ci, il y a des touristes. Les autres, ils vont 25, 30 kilomètres. Hein? Ils veulent regarder tout ce qu'il y a à côté. Mais moi, là, hein, j'ai pas le temps de regarder ce qu'il y a à côté. Là. Ouf, je me dépêche, il faut que je m'en aille. Je peux manquer de douceur, vous voyez? Hein? Manquer de douceur. Ah, donc, c'est important la douceur envers soi-même, en accueillant ce que nous sommes, puis la douceur aussi envers les autres. Il y a un auteur qui parle, il y a deux sortes d'humilité, ça joue avec la douceur. L'humilité qu'on appelle anthropologique, puis l'humilité qu'on appelle christologique, c'est-à-dire l'humilité anthropologique, c'est quoi? C'est anthropos, c'est l'être humain. Alors, l'humilité anthropologique, c'est d'accueillir l'homme ou la femme que nous sommes. Puis l'humilité christologique, c'est l'attitude d'humilité du Christ que nous adoptons dans notre propre vie. Mais seulement avec la première humilité, l'humilité anthropologique, déjà des fois on a de la misère avec celle-là. Hein? D'accueillir humblement l'homme ou la femme que nous sommes, et à ce moment-là, ça va engendrer de la douceur. Donc douceur envers soi, douceur envers les autres, mais douceur avec Dieu aussi. Des fois, on n'est pas doux avec Dieu, vous savez. Hein? Et Jésus nous met en garde quand il dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils pensent qu'à force de pression, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Manquer de douceur envers Dieu, c'est de vouloir faire pression sur Dieu au lieu tout simplement d'accueillir hein, sa volonté. Et ça peut bien nous arriver des fois de faire pression sur Dieu. Allez Seigneur, il faut que tu me donnes, je ne lâche pas, tu me donnes. Non, ne pas faire pression sur Dieu. Le doux, c'est celui qui sait accueillir l'heure de Dieu et la manière de Dieu d'agir. Vous voyez? Si on n'accueille pas l'heure et la manière de Dieu d'agir, eh bien, on n'est pas des doux. On manque de douceur. Alors, heureux les doux, qu'est-ce qui va arriver aux doux? Car ils obtiendront la terre promise ou ils auront un héritage de la terre. Je fais remarquer la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils auront ou posséderont la terre. Vous voyez, il y a un présent puis un futur. Ah bon? C'est intéressant. Dans les béatitudes, il y a des choses qui sont au présent, puis il y a des choses qui sont au futur. Très important. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Mais nous portons cette espérance qu'il vient, un jour, il sera définitivement accompli. Le chrétien, l'homme ou la femme des béatitudes, est un homme, une femme qui est bien enracinée dans son présent. Donne-nous aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. Être dans notre présent, dans notre aujourd'hui. Hein? Puis en même temps, on est des hommes et des femmes d'espérance. On est des hommes et des femmes d'espérance. Un jour, nous verrons face à face. Hein? Un jour, ce sera le royaume définitivement accompli. Vous voyez? Être à la fois des hommes et des femmes, hein, du présent, hommes et femmes aussi, d'espérance. Et Dieu sait que l'espérance dans notre monde en fait défaut. Oh, c'est bon de penser, oui, il y aura une terre promise, il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Des fois, puis vous-même, vous pouvez rencontrer des gens, on ne voit pas plus loin que quand c'est fini, c'est fini. Quand on est mort, on est mort. Hein? Eh ben non! Nous portons cette espérance. Et cette espérance, elle est importante, elle est fondamentale. Peut-être que vous connaissez cet auteur, Charles Péguy. Charles Péguy, à un moment donné, il fait une comparaison des trois grandes vertus théologales. C'est quoi les vertus théologales? La foi, l'espérance et la charité. Et Charles Péguy compare l'espérance, les trois vertus, il les compare à trois sœurs. Mais il y a deux grandes sœurs. C'est la foi et la charité. Il y a la petite sœur espérance. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite sœur espérance? Elle tient ses deux grandes sœurs par la main et c'est elle qui les guide, qui les conduit. Et c'est vrai, c'est une image poétique, mais c'est très juste. Lorsque l'espérance fait défaut dans nos vies, qu'est-ce qui arrive? Quand l'espérance vient à faire défaut, la confiance diminue, la charité se refroidit. Je regarde ça, j'ai fait de l'accompagnement des fois des couples. Hein. Des fois j'ai rencontré des couples ou des gens qui étaient dans une situation difficile, hein, puis qui disaient, on a l'espérance qu'on va s'en sortir. Ou des gens qui ont des problèmes financiers, des fois, on a l'espérance qu'on va s'en sortir. Hein. Eh bien, tant qu'on a de l'espérance de s'en sortir, eh bien quoi? il y a toujours une relation de confiance. Hein? Une relation de confiance. Puis l'amour continue à s'exprimer. Mais lorsqu'il n'y a plus d'espérance, j'ai vu des gens qui disent « Non, ça ne sert à rien, mon père, là. Il n'y a plus rien à faire. J'ai plus d'espérance. On ne s'en sortira pas. C'est fini avec mon mari, avec mon épouse. Il n'y a plus d'espérance. » Quand il n'y a plus d'espérance, oh, la confiance en l'autre est morte aussi. Et puis, le mouvement du cœur, l'affection, hein, l'amour, pouf, se refroidit. L'espérance est un moteur, hein, et pour la confiance, et en même temps pour la charité. Et l'espérance est donc importante, hein, dans nos vies. Alors, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Et la terre, hein, ce qu'on vise ici, c'est la terre, oui, mais c'est la terre promise, en fin de compte. Hein. Troisième, l'autre béatitude, brièvement. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, et je tiens à mentionner ici, on n'est pas heureux parce que affligé. Voyez, on est heureux parce qu'il y aura consolation. Voyez, on est heureux parce qu'on sait que Dieu va nous apporter réconfort, pas seulement dans la vie éternelle, mais déjà ici aujourd'hui, Dieu va nous réconforter. Heureux les affligés. Alors donc, faut pas dire la béatitude dit ben oui. Soyez heureux les affligés parce qu'un jour vous allez être consolés. Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Soyons heureux parce qu'il y a réconfort de la part de Dieu alors même que nous connaissons l'affliction. Le réconfort que Dieu apporte. Hein? Et c'est quoi les affligés dans la Bible? C'est quoi? C'est quelqu'un qui vit une grande peine, une grande détresse. Tel un deuil. Eh bien, au cœur de notre détresse, au cœur de notre affliction, avoir cette assurance que Dieu est là pour nous réconforter. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et moi je vais vous réconforter, vous soulager. On a eu au foyer de Charizy, il y a quelqu'un qui nous a fait un corpus. Vous savez, c'est quoi un corpus? C'est un mot latin pour dire un corps. On avait un crucifix, mais pas de corps dessus. Et puis là, il nous a fait un corpus. Et c'est très beau. Quand les gens viennent, j'attire leur attention sur le trou qu'il y a ici dans la poitrine. Et l'artiste, un artiste de Lille qui l'a fait, il a fait volontairement un trou très profond. Puis on sent la poitrine qui descend vers le trou, puis le ventre, hein, qui s'en va vers le trou. C'est vraiment comme un... Et voyez, il voulait signifier à travers cela le cœur de Jésus qui est un refuge. Le cœur de Jésus qui est comme une grotte dans laquelle on peut trouver refuge. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau. Et ça m'arrive, hein, des fois, à des personnes, je dis, ben, c'est ce que tu vis comme souffrance, comme fardeau, comme affliction. Regarde le corpus. En regardant le corpus, puis le trou qu'il y a dans la poitrine du corps de Jésus, dépose cela, rentre-là. Parce que Jésus dit qu'il allait apporter consolation aux affligés. Alors, oui, ça se tient les béatitudes. Si on a une affliction, rappelons-nous la première béatitude, heureux les pauvres de cœur. Au cœur même de nos afflictions, de nos épreuves, avoir la confiance, hein, de m'en remettre à Dieu. Quand on vit des afflictions, je reviens souvent là-dessus aussi, avoir cette assurance que de tout, Dieu peut faire surgir de la vie. Vous connaissez la parole de Saint Paul? La parole de Saint Paul quand il dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Si c'est ça pour le péché, hein, la grâce surabonde là où il y a eu du péché, avoir cette assurance que de tout Jésus peut faire surgir de la vie. Je dis Jésus est ressuscité et Jésus est ressuscitant. Ressuscité, c'est un participe passé. Ressuscitant, c'est un participe présent. Alors Jésus, donc, quand on vit une épreuve, c'est vrai que c'est pas facile. Je me dis, oui, mais je vis telle épreuve. Ne pas se décourager. Jésus a cette capacité, Dieu a cette capacité de faire surgir de la croissance au cœur même de l'épreuve. Et je suis sûr que plusieurs d'entre nous avons vécu des épreuves, des difficultés, puis après, on voit après coup comment il y a eu une croissance. Il y a eu quelque chose qui a grandi à travers ça. Je donne l'exemple, quand il y a eu le verglas en 97. Je ne sais pas comment c'était dans la région de Québec, mais j'étais à Montréal à l'époque. Et sur la rive sud, les gens qui avaient été durement éprouvés à ce moment-là durant le verglas, parce que ça a duré plusieurs semaines où les gens n'avaient pas d'électricité. À travers cette épreuve, il y a quelque chose de beau qui se vivait, c'est malgré tout. Les gens qui ne se parlaient jamais, des voisins qui ne se parlaient jamais, à un moment donné, qu'est-ce qui arrivait? Il y a des voisins qui disaient, « Ben, nous autres, on a un poêle à bois chez nous, dans notre sous-sol. Ben, venez donc chez nous. » Des voisins qui ne se parlaient jamais, au cœur de l'affliction et de l'épreuve, ça a été l'occasion de rapprochement. C'est étrange, vous voyez. Au cœur même de l'affliction, de nos épreuves, c'est vrai qu'il peut y avoir, que Dieu a cette capacité de faire surgir de la croissance et de la vie. Mais sauf que nous autres, on voudrait que ce soit vite et tout de suite. Mais des fois, ça prend du temps avant de discerner la croissance qui se fait à travers telle ou telle épreuve. Je me rappelle de cet homme qui était un businessman qui a eu un cancer. Et pour lui, le bon Dieu, puis il a fait l'église, les curés, ça n'intéressait pas bien. Et puis c'était sa business, il fallait que ça rapporte, bon. Surtout dans un monde de concurrence pas mal, alors c'est pas toujours évident. Alors, donc, c'était le rendement de sa business. Sa famille, ça venait après, puis bon, ça venait, la liste était un peu plus loin, tu sais. Et puis là, quand il y a eu un cancer, il s'est rendu compte que son épouse était proche de lui, était affectée de voir que, comment ça allait tourner. Les enfants qui venaient voir le père, puis étaient inquiets, tu sais. Puis, en fin de compte, l'aumônier qui lui a fait sa visite. Puis là, le monsieur, dans sa maladie, il fait un retour sur sa vie. Il fait une revision de vie. Puis quand il sort de l'hôpital, il dit, l'homme qui sort n'est pas l'homme qui est entré. Au cœur même de sa maladie, de son affliction, il a découvert. Il y a eu comme une consolation, ça peut dire. Un réconfort, une lumière qui fait que, il a réajusté son échelle de valeur. Dieu, il a gagné en position, son épouse, sa famille, voyez, le profit, c'est venu un peu plus loin après. Mais voyez, à travers l'affliction, à travers l'épreuve, il y a de la vie, il y a de la croissance. Et si on veut se réconcilier avec une faiblesse, avec une blessure du passé, avec une épreuve que nous avons vécue, je vous donne seulement une piste. Essayez de trouver les pistes de vie qu'il y a à travers cette affliction ou cette épreuve. Et le jour où on voit les pistes de vie qu'il y a à travers une épreuve ou une affliction, ça nous réconcilie avec. Voyez? Comme cet homme-là, de dire à un moment donné, au fond, ça a été une bonne chose, mon cancer. Ça fait drôle d'entendre ça, Mais, il le vivait, il disait vraiment, au fond, c'était une bonne chose, parce que je sais plus où je m'en allais, tu sais. C'était juste l'argent qui comptait. À mon avis, ça m'a permis de revoir ma vie. Vous voyez, quand on commence à voir les pousses de vie à travers une épreuve, eh bien, ça nous réconcilie avec. Et là, on peut dire, un peu comme Saint Paul, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Heureuse épreuve qui m'a valu une telle croissance. Heureuse affection qui m'a donné de connaître la consolation de Dieu, le réconfort de frères et de sœurs à côté de moi. Vous voyez? Alors voilà donc les trois premières béatitudes Alors je m'arrête là-dessus. On les retient par cœur parce que je voudrais bien qu'au bout de 3 jours, vous connaissiez l'Évangile par cœur. Hein? Parce que si on connaît les béatitudes, c'est un résumé de l'Évangile. Donc, si on se rappelle toutes les béatitudes, puis encore plus si on les vit de plus en plus, eh bien, on connaît l'Évangile, on va vivre l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Et heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous les retenez, vous vous endormez avec ça, pour qu'un mercredi, on puisse les savoir par cœur. Mais pas juste les savoir, comme je vous dis, pas une question de mémoire uniquement, mais de les intégrer un petit peu plus dans nos vies. Alors, je m'arrête là-dessus, on va voir la célébration eucharistique. Pour la célébration eucharistique, comment nous allons procéder? Oui, on va avoir un chant pour nous mettre en célébration, hein? Jésus, je vous dirai, ou un chant comme ça. Après ça, je vais faire une démarche pénitentielle à la lumière de ces 3 béatitudes. Okay? Une prière spontanée. Je proclamerai le texte des béatitudes. Un moment de silence. Et on enchaîne avec l'offertoire. Ça va? Alors, on se prépare à entrer en célébration. Ah, c'est vrai.